Universitaire, du coup, on n'est pas spécialisé dans un sujet, du coup, on va parler de nous, parce que c'est un peu notre spécialisation quelque part. D'abord, on va commencer par se présenter chacun notre tour, parce que pour nous, c'est important de situer la position sociale depuis laquelle on parle, avant de parler de nous. Ensuite, on parlera de la complexité à construire une masculinité trans en tant que féministe, d'une part, et en tant que personne racisée d'autre part. Et enfin, on abordera en quoi notre place est minoritaire dans le milieu féministe dans lequel on évolue. Alors pour préciser, pour savoir de quoi on parle, on évolue dans des milieux féministes, on va dire anarchistes, et dans des milieux transpédéguines. Voilà, en dehors de partis ou d'organisations. Je vais commencer à me présenter. Alors, je suis donc trans, F2M, féministe. Je suis née, j'ai grandi dans une famille blanche, classe moyenne supérieure, d'origine bourgeoise et catholique. Et donc, j'ai reçu des codes culturels blancs et bourgeois. Le racisme que je vis en tant qu'asiatique en France, pour moi, prend des formes différentes que celui dirigé envers les Noirs, les Arabes et les musulmans et les musulmanes. C'est des mécanismes qui sont identiques, mais ce sont des formes différentes parce que la propagande politico-médiatique raciste dans le contexte actuel français est essentiellement dirigée envers les Noirs, les Arabes et les musulmans et les musulmanes. Donc, pour moi, les projections et les effets, les projections racistes et les effets que je subis sont, on va dire, moins hostiles ou évidents ou violents, mais ça va être plus diffus, exotisant, etc. Donc, de par mes origines sociales, je jouis de certains privilèges bourgeois et qui vont conditionner aussi le racisme que je subis, qui va prendre certaines formes. Voilà, donc j'ai parlé que je venais d'une famille, enfin que j'ai grandi dans une famille blanche et donc oui, donc j'ai reçu des codes culturels qui m'ont donné certains privilèges, mais aussi un revers, c'est que je me suis longtemps considéré comme blanc, vu que ma famille était blanche, malgré le fait qu'ils m'ont tout le temps souvent renvoyé que j'étais pas comme eux, que j'étais différent, que même mon arrivée dans cette famille a fait quelques scandales. Donc voilà.
Mais alors, moi, c'est Anakin, moi aussi, je suis trans FTM. J'ai été adoptée, donc je viens aussi d'une famille blanche, catholique et bourgeoise, ce qui implique plein de choses, comme d'avoir été scout ou au catéchisme et à la messe jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Donc, je me suis toujours vue comme un grand blanc blond jusqu'à il n'y a pas si longtemps. J'ai toujours les yeux bleus, d'ailleurs. Et du coup, en transitionnant, je suis devenue féministe. Et c'était une évidence pour moi. Et du coup, ce féminisme, il est enrichi par des nouveaux questionnements d'année en année. Après avoir longtemps planché sur les questions de genre, c'était surtout lié à ma transition, j'ai compris que j'étais pas si blanc que ça. Merci, mes amis dans la salle. Du coup, on va dire que ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à m'interroger sur les questions de racisme. Comme rien ne va sans rien, j'essaye tant bien que mal d'organiser mes questionnements en essayant de voir, du coup, les imbrications genre race-classe. Donc on est en plein dans le thème du débat. Et c'est pas facile, hein, je le dis. Des fois, on loupe des choses, mais on essaye quand même. Du coup, pour un petit peu introduire notre intervention, enfin, voilà, moi j'avais envie de parler de la construction d'une masculinité trans et du coup d'une masculinité transracisée. Et c'est construire une masculinité trans, pour moi, ça pose tout d'abord le problème du manque de modèle. Sabrine, elle parlait d'histoire et du coup d'anciennes féministes lesbiennes of color. Nous, on n'a pas ça. Du coup, il y a définitivement une impossibilité d'identification à des personnages trans qui pourraient correspondre à une idée qu'en tant que féministe, l'on aimerait se faire de la masculinité. L'imagerie trans qui s'est formée à peu près ces 10 dernières années, à travers divers projets photographiques, projets vidéo, reste encore peu accessible et peu connue. Les rares projets faisant le tour du monde occidental nous ont présenté tout d'abord des masculinités trans nord-américano-centrées et plutôt blanchocentrées. Ce qui replace forcément la masculinité trans blanche comme référentiel, avec les attributs générationnels et géographiques qui lui sont attribués, virilité, tatouage, phallocentrisme, hétérosexualité et graffiti. Maintenant, en second lieu, ces 4 dernières années, il y a eu d'autres projets qui on a pu voir apparaître. Moi, je vais vous parler de deux projets qui me semblent assez importants, qui mettent en scène d'autres types de personnes, des personnes noires, des personnes asiatiques, des personnes chicanos, toujours dans des contextes culturels nord-américains. Donc, je voulais vous parler tout d'abord d'un docu-porno qui s'appelle Transentities, qui a été réalisé par une personne trans, FT, je ne sais pas comment il se définit, FT plutôt masculine, hein, Morty Diamond, qui suit le parcours de vie et le parcours sexuel de deux personnes trans noires qui font le choix de ne pas sexualiser avec des personnes blanches. Sauf dans une de leurs relations BDSM où leur soumise blanche est sourde. Et donc, parce qu'elle subit une oppression autre que le sexisme, cela leur permet de sexualiser avec elle. Je ne vais pas forcément théoriser leur choix, mais il me paraissait assez important de relever ceci, et que ce film a quand même eu une petite médiatisation dans les milieux LGBT, QI, etc., etc., occidentaux. Il y a un autre projet photographique qui est apparu l'année dernière, qui s'appelle Brooklyn Boyhood. Et là, on nous présente un panel de masculinité, donc il n'y a pas que des trans, il y a aussi des butch, des personnes dyke aussi, tout simplement, et qui sont non-blanches. Il y a essentiellement une majorité de personnes afro-américaines. Là, on voit clairement qu'on a évolué, parce qu'on n'est plus dans une masculinité virile, figée, dans des codes traditionnels, et l'expression de la race, si c'est quelque chose de vraiment central. Maintenant, pour parler de moi, les masculinités nord-américaines dont je parle ont vraiment du mal à prendre corps, vraiment chez moi, tant je ne me reconnais pas assez dans l'historicité des luttes afro-américaine, noire-américaine ou autres racisés américains. La construction de ma masculinité trans se fait tout d'abord par la prise en compte de mon parcours spécifique de personne adoptée. Les modèles de masculinité que j'ai pu avoir en premier et qui ont été valorisés par mes pères, enfin mes camarades de lycée, mes camarades de collège. Donc on est dans la sphère socialo-bourgeoise. Hein. Ce furent des modèles de masculinité, ce que j'appelle, entre guillemets, post-68arde, avec mon père en chef de file, un peu flower power, etc. etc. Donc c'est ce que j'ai appelé des masculinités un peu moins viriles, en quelque sorte, ou un peu moins virilistes. Moi, j'ai toujours été attirée vers des types de masculinité qu'on dit non viril, comme Kurt Cobain, hein, le grand blond. Voilà. Ou alors Johnny Depp dans Crybaby, ce rocker, rebelle, pleureur, pas encore patriarche. À l'inverse, le seul type de masculinité qui me plaît, qui m'attire, qui me fait quelque chose chez des personnes racisées, ce sont les masculinités viriles et dans le pouvoir, avec comme seul et ultime exemple Joestar. Pour moi, Joestar, il incarne une masculinité de lutte, bien que supraviril, et voilà, il y a plein de choses que je pourrais dire et que je déteste pour plein de trucs, quoi. Mais pour ce qu'elle a de subversif et de révolutionnaire face à la culture blancho-française bien pensante, moi, je dis, voilà, quoi. J'avais envie de revenir sur ce moment de transition où j'avais envie d'expliciter ce qui se passe à ce moment-là pour une personne comme moi qui s'est construite en tant que fille plutôt masculine, plutôt dans une masculinité assez forte. Et du coup, je voulais parler de ce moment de transition qui peut être assez complexe, qui fait que pendant la transition, on s'est construit dans des codes de masculinité super fortes. Et à ce moment-là, on est obligé, ça dépend pour... Enfin, moi, j'ai choisi en tant que féministe de re-questionner ces 10 codes. Et ces codes qui nous ont apporté force, survie, empowerment, ça peut être très, 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 très compliqué et ça peut prendre pas mal de temps de les re-questionner avant de pouvoir percevoir les limites de ses performances. Je crois qu'en tant que transféministe, j'aimerais pouvoir créer des modèles de masculinité révolutionnaire, non oppressante, qui interrogent les facteurs de domination qu'implique le visuel masculin. Je sais que j'aime bien mettre en scène certains trucs de virilité parce que je suis complètement un kéké, et que ma réaction à la testo fait que, de visu, je suis pas le plus imberbe du monde, hein, et pas le plus squelettique non plus. Du coup, est-ce que je suis catégorisée comme une personne masculine, hétéro ? Heureusement, je fais 1m50, et j'ai une voix de canard, du coup, ça annule pas mal de trucs.
Moi aussi, je voulais aborder la complexité à construire une masculinité trans. Que, bon, comme Anakin, j'ai eu un peu des modèles de masculinité blanche. Voilà. Mais que moi, je voulais aborder plus d'autres questionnements que j'ai, où j'ai absolument pas de réponse. C'est que, d'une part, en tant que féministe, je voulais pas construire de masculinité, disons, virile, imposante, oppressante, qui prenne toute la place, parce que c'est des masculinités que je combats. Et donc, ça d'un côté, donc, j'ai eu plus envie de construire un autre type de masculinité, un autre type que ça. Mais par ailleurs, disons que les projections racistes et coloniales sur les masculinités asiatiques renvoie à une idée de la masculinité, disons, efféminée, soumise, effacée, discrète, etc. Et donc, j'ai pas non plus envie de correspondre aux stéréotypes du jeune homme asiatique efféminé, effacé et tout. Et donc, c'est compliqué pour moi ou c'est complexe de trouver un type de masculinité qui me va en prenant en compte ces deux paramètres en tant que féministe d'une part et en tant que personne asiatique d'autre part.
Pour rebondir sur la racialisation, moi, ma racialisation arabo-noire, alors je précise, je dis arabo-noire parce que je suis adoptée, je sais que ma génitrice était marocaine et le côté noir c'est parce que je sais pas trop c'est quoi l'autre truc, mais comme on m'a dit, t'es peut-être antillais, t'es peut-être malgache, voilà, je rajoute le noir. Donc ma racialisation, elle implique en tout cas de prendre en compte autant que je peux la performance que je peux jouer. Ma question, c'est la masculinité blanche hégémonique serait-elle une masculinité plus gentille, même si une partie du monde féministe s'accorde à combattre l'ordre hétéro-blanc-patriarcal? Est-ce que ma masculinité arabo-noire et tous les préjugés racistes que nous avons tous et toutes intégrés en feraient une masculinité plus agressive? Je pense que ça ne se joue pas aussi simplement, vu la classe bourgeoise dont je proviens. Je n'ai pas les codes stigmatisés de cette masculinité arabo-noire. Je n'en connais que les stéréotypes véhiculés par la propagande politico-médiatique. Ma provenance d'une classe bourgeoise, elle nuance et complexifie l'intersectionnalité. Je ne peux pas être lu que comme un garçon arabe, car les codes que j'utilise proviennent en premier lieu d'une classe bourgeoise, catholique blanche, et à présent d'un milieu anarcho-blablabla majoritairement blanc, et aussi d'un milieu bobo-branchouille aussi blanc. Donc, voilà, c'est des constats que je fais, qu'on se fait. Et moi, mes questionnements, c'est un petit peu... voilà, ça part dans le dans l'optique d'une destruction de l'ordre hétéro-patriarcal. Est-ce que les trans masculins se doivent-ils d'éradiquer toute virilité? Et du coup, quelles implications ont la race à l'intérieur de ces masculinités? Attention, moi je fais la distinction entre virilité et virilisme. Hein. Pour moi, il est tout à fait possible d'être dans une performance d'une masculinité qu'on dit virile, sans pour autant être dans l'oppression. Dans l'oppression de la parole, dans l'oppression de l'espace, dans l'oppression tout court. En gros, j'ai l'impression qu'on peut rouler des mécaniques sans pour autant être un gros connard. Alors, quelle masculinité est-ce qu'il est possible de voir, de sentir, de paraître? Moi, j'aimerais avoir des réponses, j'aimerais être dans un travail avec des féministes assignées femmes autour de ces questions de transmasculinité. Donc, on va peut-être enchaîner.
En dernière partie, on voulait parler un peu de notre place ou de comment on se vit dans le milieu féministe qu'on fréquente. Donc on va commencer par un point qui s'appelle comment les transidentités ne sont vues qu'à travers le prisme de la blanchité. Tout d'abord, notre place de trans masculin d'un côté, je pense, a été polémique ou problématique ou pas évident, pas fluide dans les milieux féministes. Et que dans certains espaces, disons, où la non-mixité choisie, c'est la non-mixité meuf-gwyn-trans, ça peut être évident du coup dans ce discours-là, mais pas forcément dans la pratique. Malgré qu'on peut noter quand même une amélioration depuis ces dernières années. Et d'un autre côté, cette place qui est un peu problématique, notre racialisation est complètement invisible. Elle n'existe pas, elle n'est jamais abordée. Que la question du racisme ou quoi n'est abordée que très peu abordée ou sinon tournée vers l'extérieur, que les critiques et les discours sont tournés pour critiquer les lois racistes et sexistes actuelles et tout ça. Et c'est hyper important, hein, c'est pas pour mettre en compétition diverses luttes. Donc, en partant de ces deux points, je trouvais qu'il y avait une citation d'une personne trans qui enseigne à la fac, qui s'appelle Bobby Nobles, et qui dit que les critiques adressées aux hommes transsexuels F2M sont liées au modèle utilisé pour penser l'identité au sein de la suprématie blanche. Donc pour moi, ça veut dire que cette invisibilisation de la racialisation fait que quand nos identités trans ou nos transitions posent, disons, des questionnements, des soucis, des problèmes, on est tout le temps renvoyé au même point ou à la même échelle que nos camarades trans blancs, sans pour autant analyser les rapports de domination spécifiques au racisme. Et donc, Anakin, tu avais un exemple ?
Alors oui, j'avais un exemple. Du coup, c'est l'exemple du privilège d'être vu, considéré comme un homme. Donc cet exemple, en fait, serait celui qui nous confère qu'en transitionnant, nous ne sommes plus la cible d'agressions sexistes dans la rue, dans les administrations, dans le monde extérieur. En gros. Bon, déjà, tout d'abord, il faut repréciser que pour ne plus être la cible d'agressions sexistes, il faut avoir un minimum un bon passing. Peut-être que tu pourrais... Non ? Non ? Bon, t'inquiète. Mais être vu comme un homme racisé implique des mécanismes d'oppression complètement différents que ceux vécus par nos camarades trans blancs qui, eux, vivent aussi une transphobie dans les administrations, dans la rue, et ça, il ne faut pas le nier. Donc, qu'est-ce que ça veut... Enfin, pour donner un exemple, voilà, moi, quand j'étais... une jeune femme, je subissais des agressions sexistes avec des imbrications racistes. Voilà, vouloir se taper la jolie métisse, ou enfin, pas forcément jolie, mais la métisse. Maintenant, c'est clair que le sexisme a disparu et qu'il était dans une lignée d'agressions quotidiennes. Le sexisme est plus là. Alors que maintenant, voilà, je me rends compte que je ne suis plus la cible que d'agressions racistes. Bon, et transphobes à certains moments. Ces agressions racistes sont beaucoup plus ponctuelles, mais beaucoup plus violentes. Alors, je replace le quand je parle de beaucoup plus ponctuel, je fais attention de bien replacer. Que je parle en mon nom et que c'est mon expérience et que même si ces agressions sont ponctuelles, elles ne concernent peut-être que moi parce que le fait que je vienne d'une classe bourgeoise fait que mes codes sont complètement différents et mes looks vestimentaires que celles d'un trans-FTM Kai. Et du coup, ça me permet peut-être aussi de me fondre dans une certaine invisibilité blanche qui fait que ces agressions, pour moi, sont plus ponctuelles. Donc, je crois que John voulait parler de l'invisibilité.
Oui, alors, pour terminer, je pense qu'on va un peu développer les phénomènes de racisme qu'on vit dans les milieux féministes. Donc, ça, c'est bien, ça a été abordé plusieurs fois, le phénomène du race blind, du coup, aveugle des races. C'est vraiment un phénomène comme ça en surface où c'est vraiment le truc de ne pas voir la racialisation des personnes. Donc les raisons de ce phénomène, on a plusieurs hypothèses, c'est que on ne correspond pas à certaines projections stéréotypées de personnes racialisées et aussi on vit en France avec les valeurs universalistes spécifiques à la France qui font que tout le monde devrait être pareil, on est tous des individus et c'est super. Donc j'ai un exemple typique qui m'est arrivé pour illustrer un peu ça, c'est que lors d'une réunion, on était trois, deux personnes blanches et moi, dans un groupe pour écrire la charte d'un groupe politique où il y avait une phrase à un moment qui disait « Nous souhaitons lutter contre le sexisme, le racisme, l'homo, lesbo et transphobie. » Et une des personnes blanches qui était en face de moi a dit « Ah ben bon, quand même, le racisme, oui, mais c'est vraiment qu'une position de principe parce que dans ce groupe, on n'est que des blancs. » Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Ben, moi, je suis là, salut. » Et donc, la personne m'a répondu « Oui, mais bon, toi, c'est pas pareil. » Bon, c'est pas pareil, je sais pas de quoi, de qui, je suis pas pareil, mais Voilà, et en fait, pour moi, répéter sans cesse qu'on est dans un milieu de blancs, qu'il n'y a que des blancs tout le temps, c'est aussi, ça crée une invisibilisation et on se met à penser qu'en fait, il n'y a que des blancs à ne plus voir, absolument plus voir, que en fait, les personnes racisées existent et sont là. Et donc, pour moi, les conséquences de ce phénomène de race blind, c'est vraiment de ne pas prendre en compte, enfin, ça permet une fuite et ne pas prendre en compte et ne pas se poser de questions sur la réalité des oppressions, du racisme que vivent les personnes racisées. Voilà, et que j'avais encore un exemple pour un peu illustrer ça. C'était donc une discussion, on était trois encore. Voilà, il y avait une personne blanche non française, une personne racisée et moi-même. Et la personne racisée et moi-même, on discutait du conflit en Côte d'Ivoire, on essayait de comprendre les enjeux de ce conflit en lisant des articles, etc. Bon, et la personne blanche, à un moment, nous dit mais c'était quand l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Et là, l'autre personne et moi, on ne savait pas, du coup, on répond qu'on ne savait pas. Et la personne blanche nous dit d'un air, avec un ton un peu moralisateur et dédaigneux, mais vraiment, vous n'y connaissez rien dans l'histoire coloniale de votre pays. Bon, en sachant que la personne racisée et moi, on est quand même des descendants d'ex-colonisés, du coup, c'était un peu. Pardon. Donc, c'était vraiment. Enfin. Ce moment m'a beaucoup marqué dans le sens où, pour moi, c'était vraiment comme si la personne blanche s'adressait à nous, comme si on était des blancs, et comme si on avait la même place que des blancs dans l'histoire coloniale française. Et donc, pour moi, on peut rapprocher ce phénomène-là de race blind d'une certaine approche du queer, des théories queer assez libérales, c'est-à-dire sans analyse féministe, où il y a, enfin, voilà, une certaine approche du queer où alors il n'y aurait plus qu'un continuum du genre, et puis on serait dans diverses identités de genre, et ce serait fluide, et tout serait merveilleux, on serait plus que des individus dans une société post-féministe ou je ne sais quoi. Donc pour moi, comme on ne vit absolument pas dans une société post-patriarcat ou quoi, on ne vit pas non plus dans une société post-raciste où on serait que des individus, où on pourrait échanger dans une grande société multiculturelle, où on pourrait échanger et apprendre de nos cultures en toute égalité, ce serait merveilleux.
Sérénité.
Sérénité. Je sais pas, Anakin, tu...
Bah, moi j'ai un petit exemple voilà qui me choque, mais moi c'est je ça te choque mon exemple? Oui, d'accord. Du coup c'est dans nos milieux, bah, par exemple ce soir on aura peut-être l'occasion de voir cet exemple en action. Dès qu'il y a une musique dans des espaces de fête, par exemple là à consonance arabisante, on voit tout le monde se mettre à faire des you-you et faire la danse du ventre. Et moi, je crois que je comprends pas ça, en fait. Ça me choque profondément. Mais ça n'engage que moi et John.
Et qu'après, du coup, ce phénomène de race blind, on se rend assez vite compte que voilà, c'est une stratégie de fuite de la part des blancs, pour moi, et que en fait, disons que il y a un double effet. Le double effet, c'est qu'on est en fait souvent renvoyé quand même à notre altérité, à notre différence par rapport à un référentiel universel implicite blanc. Alors du coup, ça se traduit par des remarques sur, je sais pas, notre physique ou quoi, ou des moqueries, des projections racistes, des projections exotiques sur plein de choses, et notamment sur le fait que toutes les personnes racisées se ressemblent et d'être renvoyées souvent à une sorte d'homogénéité. Par exemple, moi, les seules personnes qu'on m'a dit à qui je ressemblais dans la ville où j'habite, c'est que les personnes racisées. Et à qui je ne ressemble absolument pas, qui sont pas asiatiques, mais on m'a dit que je leur ressemblais, et que la dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai demandé à la personne blanche, évidemment, qui me le disait, mais pourquoi tu trouves que je ressemble à telle personne? Et cette personne blanche, féministe, m'a répondu « Bah écoute, vous avez la même couleur de peau, la bouche pulpeuse, des yeux noirs et des cheveux noirs, bah voilà. Alors vous ressemblez quelque part. » Voilà, et que j'avais un dernier exemple un peu pour illustrer ces doubles effets et comment en fait ça peut être une stratégie de fuite, ce phénomène de race blind. Que j'ai pas vécu, qui me concerne pas, c'est dans un groupe politique, dans un séjour d'un groupe politique, où il y avait deux personnes racisées, et sinon le reste de personnes étaient blanches, et une des personnes blanches a confondu pendant toute la durée du séjour les deux personnes racisées, alors que ces personnes ont des prénoms qui ne ressemblent absolument pas, qu'elles ne se ressemblent pas, et bon voilà. Et après, cette personne blanche a dit qu'elle n'avait absolument pas vu que ces personnes étaient racisées. Donc c'est vraiment le truc de « Ah mais non, mais j'avais pas vu, alors je sais pas. » C'est vraiment une espèce de cette personne dont je n'avais pas vu, mais quand même elle a des projections racistes. Alors... Voilà. Et pour terminer notre intervention, on voulait un peu parler du jeu des alliances qui a été beaucoup abordé pendant ce colloque. Et donc moi, pour ma part, je voulais dire que en fait c'est tout le temps, c'est un truc de dealer tout le temps mes alliances, et que à plein de moments c'est mettre de côté une partie de mon identité au profit d'une autre partie, et que il y a très où il y a pas d'espace, en tout cas pour moi, où je peux disons exister dans toutes mes identités trans, féministe et racisée. Et donc c'est tout le temps un truc de mettre de côté certaines choses ou d'autres et faire constamment aussi des compromis, quoi. Voilà.
Moi, concernant les alliances, je partage l'opinion de June. Maintenant, je crois que honnêtement, je suis moins au clair que lui, parce que c'est vrai que voilà, j'ai envie de lutter avec des transpédéguines non straight féministes, que comme on en a parlé, il y a énormément d'affects qui rentrent en compte, et que voilà, moi, mes amis, mes amantes, mes amoureuses, mes, enfin voilà, tout ça c'est majoritairement des personnes blanches. Du coup, c'est compliqué à dealer. Et il y a aussi dans une perspective de lutte contre le racisme et aussi contre le racisme intégré, j'ai envie de lutter avec ces personnes qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Voilà pour concernant les alliances. Maintenant, tu vois, Mariam, on a fini en temps et en heure. Je voulais conclure.
Ok, je croyais que tu étais encore dans ta conclusion.
Non, c'est là ma conclusion.
Cool. Bon, merci.
Non, c'est maintenant.
Non, c'est là.
C'est con. Du coup, on vous a exposé un petit peu nos parcours de vie, nos analyses et nos critiques du mouvement face à la racialisation. Je pense que ce dont on a envie à présent, c'est de renforcer et d'affiner nos discours, de créer des espaces. Ouais, enfin, quand je dis discours, nos discours, il faut bien le replacer, le no pluriel, parce que nous sommes dans des hétérogénéités de racialisation, et c'est important de le repréciser. Donc il y a des non-mixités dans les non-mixités qui vont être créées. Je pense que c'est très important pour plein de personnes qui sont là, en face de moi. Du coup, créer des espaces de rencontres, prendre de la force, et comme vous l'aurez compris, créer de la visibilité pour nos altérités.